Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. Ça tombe bien, on est fin juin. Ça se passe tout début juillet. Il s'agit de Crime et Châtiment de Dostoïevski. C'est parti. Par une soirée extrêmement chaude du début de juillet, un jeune homme sortit de la toute petite chambre qu'il louait dans la ruelle S et se dirigea d'un pas indécis et lent vers le pont K. Crime et Châtiment, donc chef-d'œuvre de la littérature russe, publié en 1866, l'histoire de Raskolnikov, un jeune homme, un étudiant qui devient un meurtrier, et toutes les conséquences que ce geste auront sur lui. Superbe, en plus c'est le roman préféré de Boris Pachinski, notre réalisateur qui, lui, n'a tué personne, enfin je crois. Des romans et éventuellement des chefs-d'œuvre, nous en lirons plein d'autres avec les libraires de l'émission tout à l'heure. Et puis Victor Delande sera là lui aussi avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité. Deux invités aujourd'hui, je vous gâte. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Et vous avez bien sûr reconnu la musique du plus célèbre des archéologues et mon héros préféré, Indiana Jones. C'est pour se mettre dans l'ambiance, ma consoeur du point, Julie Malor, situe le livre de mes invités entre Indiana Jones, justement, et John le Carré. Et je suis d'accord, La Relique du Chaos, c'est son titre, troisième tome du cycle du Soleil Noir, après Le Triomphe des Ténèbres et La Nuit du Mal, rien que les titres. On a envie. Je m'empresse de vous rassurer, le roman est conçu de manière à ne pas être obligé d'avoir lu les précédents pour le comprendre. Ça n'empêche pas de lire les deux premiers quand même. On a tout l'été pour ça. D'ailleurs, il y a un rapide résumé des épisodes précédents au tout début. L'histoire, je vous la résume trop vite, mais on va y revenir. Nous sommes dans les années 30, puis 40. Les nazis sont à la recherche de quatre reliques sacrées, des svastikas, qui, si vous les trouvez, toutes, et les réunissez, vous confère des pouvoirs extraordinaires. Les alliés essayent aussi de les trouver pour contrer les nazis. Trois reliques ont déjà été trouvées, il en reste une. Tic tac tic tac, on est en 42, c'est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et les svastikas pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Bonjour, Jacques Raven et Eric Giacometti.
Bonjour.
Bonjour.
Je signale que Jacques Raven est en studio, Eric Giacometti au téléphone. Merci d'être là. C'est pas facile de résumer 900 pages et encore, on n'a pas encore parlé du nouveau. Juste un mot d'organisation. Tout est déjà écrit. Il y a un plan pour le cycle complet où vous avisez à chaque nouveau tome, Jacques Raven.
Non, on a eu un plan qui préparait les trois volumes. Et ensuite, pour chaque livre, il y a un plan qui prévoit tous les chapitres un par un, puisque comme on est deux à écrire, il faut qu'on se répartisse les chapitres. Et donc, tout est prévu très largement. Ça prend à peu près presque un ou deux mois de faire le plan.
Ah oui, 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 c'est un... parce que tout le cycle est prévu au complet. Donc, vous considérez qu'il y aura tant de pages dans chaque tome, etc.
Alors, on part effectivement sur un nombre de pages, à peu près un nombre de chapitres. Et ensuite, quand même, il y a une part d'inventivité au fur et à mesure et de modification quand on écrit.
Et ce qui est compliqué aussi, Eric Giacometti, c'est que ça implique... Quand on fait un cycle comme ça sur la longueur, ça implique une montée en puissance. Vous n'avez pas peur de manquer de cartouches au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire ?
Non, parce qu'en fait, on s'inspire aussi, et c'est ce qui est un peu notre marque de fabrique, on s'inspire de faits réels, très souvent. Et souvent, la réalité est extraordinaire. Et on se dirait, mais ce n'est pas possible, c'est imaginaire, et pourtant, c'est vrai. Et ça, ce sont des points extrêmement importants quand vous... travailler un suspense.
Alors justement, dans ce nouvel épisode, nous sommes en juillet 42, mais il y a une fausse ouverture. Le roman commence en 1918 à Yekaterinbourg avec la famille Romanov. Les dernières minutes de la famille Romanov qui est racontée, mais alors, on y est quoi. Et comme toujours, et vous le disiez Eric Giacometti, avec vous, la fiction se mêle à l'histoire la vraie. Vous nous racontez ça, les Romanov ?
Oui, c'est quoi la famille impériale russe? On est a été arrêté par les communistes. Nous sommes le 17 juillet 1918. Ils ont été transférés dans l'Oural. L'Oural, c'est une partie de la Russie c'est à mi-chemin entre la Russie européenne et la Russie asiatique. Hein, c'est la ligne de fracture. Et c'est là où leur sort va se décider. Une partie des communistes veulent les exécuter. Les autres, on se dit, on va plutôt les garder. Et dans le même temps, vous avez les armées blanches, c'est-à-dire les partisans de la famille impériale, qui viennent pour essayer de les délivrer. Que se passe-t-il? Tout simplement, les plus durs du régime l'emportent avec l'approbation de Lénine et ils vont être assassinés. Ils vont être, plus qu'assassinés, ils vont être massacrés. C'est-à-dire toute la famille, l'empereur Nicolas II, l'impératrice Alexandra et les enfants, les trois sœurs et le tsarevitch. Et c'est là où nous intervenons, c'est-à-dire on utilise ce fait historique et on va y greffer quelque chose qui est du ressort de notre imaginaire.
Oui, parce que Nicolas II vous propose de leur révéler un secret au moment où il va se faire assassiner, ça je peux le dire.
Absolument. Oui, vous pouvez le dire, ce n'est que le prologue. Et ça ne va pas se dérouler comme prévu, ils vont se faire massacrer, mais ce secret est lié à la relique, et pour nous, dans notre trilogie, les reliques sont des svastikas, ce qu'on appelle maintenant des croix gammées. Mais ce n'est pas ça le plus dingue de l'histoire, c'est qu'on s'inspire d'un autre fait historique que peu de gens connaissent. On a retrouvé, des années plus tard, après le massacre, le journal intime de l'impératrice Alexandra. Et curieusement, sur la couverture, vous avez une couverture en cuir de ce journal intime, vous avez une svastika, une croix gammée. Et quand vous tournez les pages, vous avez d'autres croix gammées. Ça va même plus loin. Dans la maison Ipatiev, là où était détenue la famille impériale, on trouve des croix gammées qu'on suppose être gravées, avoir été gravées par l'impératrice. Et ça nous a titillé l'imagination. Pour les historiens, il y a deux hypothèses. Soit elle avait pris ce symbole comme symbole du bonheur. Il faut savoir que la svastika avant la croix gammée était un symbole qui vient d'Asie, qui est un symbole d'énergie, un symbole positif. Ou alors, et là, ce serait ce qui nous intéresserait le plus, elle aurait fait partie de notre société secrète d'origine allemande qui aurait utilisé ce svastika bien avant la fabrication du parti nazi. Et là, notre imaginaire a pris le dessus.
Et ce qui est formidable, c'est que moi, je connais un tout petit peu l'histoire des Romanov, mais je ne savais plus quelle était la part de fiction, d'histoire exactement, s'il y avait des détails vrais ou pas. C'est quoi la limite, Jack Raven? Est-ce que parfois, vous vous dites, là, c'est dangereux d'aller trop loin dans la fiction en partant de cette histoire vraie-là?
Alors, dans le cas de Romanov, j'oserais dire que la question ne se pose pas, parce que toute la famille Romanov et l'impératrice en particulier, du temps de leur brève carrière et de leur brève vie, ont trempé dans l'ésotérisme. Leur fils était gravement malade et donc ils ont fait appel pendant pas mal de temps à des mages divers, variés. Et puis c'est l'époque de Rasputin aussi qui joue un grand rôle à cette époque-là. Donc c'est vrai que pour nous la limite là, elle est assez facile, très clairement, parce qu'on peut facilement pouvoir avoir du fictif, du bon fictif, à partir de faits qui sont totalement réels.
Justement, il y a beaucoup... Alors, il y a l'histoire, mais il y a aussi des références. On a entendu Indiana Jones tout à l'heure. Vous aviez un grand sourire en l'entendant, mais surtout parce qu'on vous fait le coup à chaque fois. Il y a une des personnages qui s'appelle Von Essling, qui fait penser à Van Helsing, le chasseur de vampires dans Dracula. Et il y a beaucoup de voyages aussi. Il y a la Crète, il y a Venise, il y a le château de Montségur. Est-ce que vous vous emparez de toutes ces références? Est-ce que vous allez vous retourner aux sources de ces références-là? Et pour les voyages, est-ce que vous allez sur place?
Alors, de façon quasi systématique, parce que au fur et à mesure des années, nos lecteurs deviennent de plus en plus exigeants. Vous savez, aujourd'hui, un lecteur, vous mettez une information, il la vérifie sur Internet immédiatement. Donc, on aime s'imprégner des lieux où on va. Et quel que soit le lieu que l'on décrit, effectivement, on essaie de le décrire au plus près. Puis, il arrive parfois aussi que dans certains lieux, il y a une forme de souvenir, de mémoire qui soit encore présent. Et ça permet aussi de justifier pas mal l'écriture.
Alors, dans la fiction, Tristan Marcas, le héros agent double, si on veut, officiellement au service des nazis, mais qui joue en réalité pour les alliés, recherche avec d'autres, on l'a dit, les svastikas, qui sont donc des croix gammées, mais qui est un vieux symbole antique. Pourquoi vous avez choisi ce symbole-là pour vos reliques de la fiction? C'est touchy quand même, cette histoire de croix gammée.
Alors, tout simplement parce que les nazis faisaient une fixation absolue sur ce symbole, mais on s'est très vite aperçu qu'ils n'en étaient en rien ni les créateurs, ni les manipulateurs. Puisque les premières fois où on voit des Allemands se servir de croix gammée à des fins politiques, ça date bien avant Hitler. Donc on a voulu revenir à ce symbole clé pour montrer comment en fait, quand on manipule totalement un symbole, on peut aussi manipuler les foules. Le nombre, par exemple, d'informations qui ont été données dans les cinémas sur les recherches archéologiques, sur les rares poteries où on trouvait des croix gammées, on avait l'impression que l'Allemagne entière était remplie de croix gammées depuis la nuit des temps.
On va y revenir justement. Restez avec nous, on garde le chapeau, le blouson et le fouet. On repart dans un instant à la poursuite des reliques sacrées.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec les Dan Brown français, Éric Giacometti et Jacques Ravenne pour le troisième tome du cycle du Soleil Noir intitulé « La relique du chaos ». Tristan Marcas et les nazis, Elor Destillac et Erika von Essling et d'autres sont à la recherche d'une svastika, une croix gammée au pouvoir surnaturel. Je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher, il faut encore un extrait de Indiana Jones.
C'est certainement la coupe du roi des rois. C'est la coupe d'un charpentier. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tu as choisi judicieusement. Mais le Graal ne doit pas franchir la dalle scellée. Telle est la limite et le prix de l'immortalité.
C'était un extrait de La Dernière Croisade, donc vous vous souvenez. Indiana Jones aide, malgré lui, les nazis à retrouver le Graal. C'était le cas aussi dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, sauf que la relique, cette fois, c'était l'Arche d'Alliance. Mais les nazis étaient déjà à la recherche du trésor dans cet épisode. Et il se trouve, Jacques Ravenne et Éric Giacometti, que les nazis, on avait consacré d'ailleurs une émission l'année dernière à cette idée, les nazis étaient réellement fascinés par le surnaturel. Il y avait même une structure dédiée à la discipline qui est dans le roman, évidemment, c'est l'âne nerveux. Qu'est-ce que l'âne nerveux, Éric Giacometti?
Alors, c'est une association universitaire scientifique qui réunissait des archéologues, des historiens. Ça s'appelle l'héritage des ancêtres, hein, en allemand. Il fallait trouver des traces, en gros, de l'existence de la race aryenne, de la civilisation aryenne, bien avant les grandes civilisations officielles, à savoir l'Égypte, la Grèce antique. Ça voulait dire que les Aryens ont été, depuis la nuit des temps, le peuple élu, le vrai peuple élu, à la différence du peuple élu juif ou des peuples d'Antiquité. Et progressivement, c'est devenu un organisme tentaculaire où l'on étudiait à la fois, on faisait des expériences médicales dans les camps de concentration pendant la guerre, toutes les expériences horribles dans les camps de concentration, c'était la neuverbe. On étudiait l'archéologie, on faisait des fouilles aux quatre coins du monde, on allait chercher le Graal à Montségur, on faisait des fouilles à Brosset du côté de Carnac.
On est dans l'histoire, la vraie.
Dans le Grand Nord. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, tout était orienté. Il fallait récupérer des données historiques pour les manipuler, les transformer, faire du révisionnisme, si vous voulez, archéologique, à des fins politiques. Donc ça a vraiment existé et ils ont vraiment cherché ce qui est du ressort du mythe. Quand vous cherchez le Graal, le moindre historien vous dira que ça n'existe pas. Mais à l'époque, des gens très sérieux, universitaires au placé, y croyaient.
D'accord, mais c'était ma question. Vous avez en partie répondu, mais ils cherchaient quoi, dans quel but autre que la propagande politique? Est-ce qu'il y avait quand même une intention, peut-être éventuellement non assumée, de trouver des pouvoirs surnaturels, ou c'était un peu des deux? Je parle de l'histoire, là, pas de la fiction, toujours.
Alors, dans l'histoire réelle, il y a une fascination totale des nazis pour les reliques, par exemple. Ça a été de grands collectionneurs de reliques, ils ont essayé de s'en emparer partout en Europe. Et c'est principalement le personnage d'Himmler qui, lui, est fondamentalement convaincu qu'il existe des pouvoirs qu'ont possédé les peuples du Nord bien avant l'émergence des autres peuples, et que c'est en les perdant que la race germanique s'est totalement dégénérée. À partir de là, il faut les retrouver. Et ça va jusqu'à chercher des choses dans la terre creuse, jusqu'à une énergie mystérieuse qu'ils appellent le vril. Ce sont quelque chose qui nous apparaît très délirant, mais qui est extrêmement paradoxal quand on voit que Himmler, c'est l'architecte de la solution finale, l'homme qui a mis, je dirais, la raison au service du meurtre.
Et alors là, on ne va pas se lancer dans une analyse littéraire hyper poussée, mais quand même, il y a une question que j'ai envie de soulever avec vous, parce que c'est souvent le cas dans les romans historico-ésotériques bien faits, parce que c'est une science très compliquée à manipuler, et vous le faites avec quel talent, mais il y a cette recherche du pouvoir absolu toujours dans ces romans-là, la recherche de pouvoir divin, de dominer le monde. C'est ça le symbole, et c'est ça ce qui terrifie Éric Giacometti, qui fascine dans les aventures de vos héros. Je passe sur les artifices nécessaires d'aventures, de croyances, etc. Mais l'idée, c'est que les hommes sont ainsi faits qu'ils déclenchent des guerres pour acquérir le pouvoir total.
Oui, le pouvoir est la drogue la plus puissante qui puisse exister. À partir du moment où vous avez goûté à ce breuvage amer, c'est terminé. Donc, si vous vous dites il existe des objets mythiques qui seraient dotés de pouvoirs magiques, soit vous n'y croyez pas et vous reléguez ça dans les rayons des musées, soit vous y croyez réellement et là, vous allez enclencher des actes qui peuvent paraître pour des esprits de notre époque complètement fous. Mmh. Imaginez que vous êtes en train de préparer la Seconde Guerre mondiale Et en même moment, vous envoyez une expédition au Tibet pour aller chercher, pour aller savoir s'il n'y aurait pas des objets au pouvoir magique arien qui pourraient vous aider à doper cette race arienne, à la rendre encore plus supérieure. Vous dites c'est délirant. Et pourtant non, ils l'ont fait. Et c'était Himmler, qui, comme le disait Jacques, qui avait lancé cette expédition. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on a des cas précis, même jusqu'à la fin de la guerre, de recherche d'objets. Mais on est dans un... Vous savez, je crois que c'est on est dans une pensée magique. C'est ça qu'on n'arrive pas trop à cerner avec le nazisme. Le nazisme, c'est d'abord un totalitarisme politique, racial, dévoyé, bien évidemment, mais aussi il y a une part de ce qu'on appelle une pensée magique, c'est-à-dire quand vous pensez réellement que la race aryenne, qui n'existe pas, est une race supérieure et que ses pouvoirs viennent du sang. Il y avait une cérémonie, par exemple, tous les ans, la cérémonie du drapeau du sang, où Hitler passait en revue des drapeaux tachés de sang des martyrs du nazisme, et il s'était censé communiquer un pouvoir. Là, on est dans le délire le plus total, et pourtant, des gens y croyaient.
Alors, justement, je disais, c'est une science quand même très délicate à manier, le roman historico-ésotérique. Mais en plus, vous, c'est vrai, comme le dit, comme je l'ai cité tout à l'heure, ma consoeur Julie Malore du Point, c'est entre Indiana Jones et John le Carré. Donc, il y a de l'espionnage, effectivement, dans vos romans en plus. Et puis, alors, bon, on croise toutes les figures historiques dont on a parlé, mais des figures qu'on connaît bien, quoi. Hitler, évidemment, mais il y a De Gaulle aussi, à un moment, une apparition de De Gaulle. Comment on fait pour manipuler justement cette chimie-là, entre le dosage, entre l'espionnage, la politique, l'histoire et le surnaturel ?
L'espionnage, c'est venu aussi du fait que ce soit Eric ou moi, on a été biberonnés aux histoires d'espionnage qui ont assez disparu du panorama littéraire. Donc c'est vrai que quand on a vraiment commencé cette saga, il y avait la volonté de remettre en fait les films d'espionnage qu'on voyait jusque dans les années 70 et qui nous avaient fascinés et qu'on trouvait, nous, très propices au suspense. Ensuite, la chance qu'il y a, c'est que pour la Seconde Guerre mondiale, sur les grands personnages, vous avez cité Churchill, De Gaulle, mais du côté nazi, effectivement, Hitler, Himmler et puis Goebbels ou Göring, c'est que tout est documenté. Donc on a cette chance de pouvoir recréer par exemple une réunion sur les questions militaires de Hitler avec Göring et Goebbels et d'être presque sûr de tomber juste. Voilà.
Et pour les espions, c'est jamais vraiment documenté. Les espions, c'est des histoires qui se racontent. Il y a des archives, certes, mais enfin, c'est des espions, donc par définition,
ça a été beaucoup plus documenté depuis que les archives sont libérées. Vous savez, à peu près maintenant, tous les 10 ans, on commence à voir apparaître des archives et on apprend, par exemple, que du côté anglais, il y avait beaucoup de Françaises qui avaient joué des rôles d'espionnes et qui n'ont jamais été reconnues à la Libération. Vous ne les trouverez pas dans ceux qui ont les croix, les décorations et les chamarrures des compagnons de libération. Ce sont des femmes qui ont été ignorées et nous, on a créé un personnage de Lord Destillac qui est venu de son Ariège pour travailler avec les Anglais et on a essayé de remonter aussi ces figures-là qui sont un petit peu les figures anonymes de la Seconde Guerre mondiale, celles de la guerre de l'ombre.
Et quand je dis espion, il y a du James Bond dedans aussi. Ça, vous le découvrirez en lisant les livres. Juste un mot sur la méthode. Je sais que vous avez une technique très particulière quand vous êtes en phase de réflexion et d'écriture avec Éric Giacometti. Qui veut répondre ? Qui veut m'expliquer ? Éric, vous nous racontez ça, votre dispositif un peu étrange, un peu ésotérique ?
Non, simplement, ça ressemblerait plus, je dirais, aux techniques des scénaristes qui travaillent sur les séries, c'est-à-dire que nous bâtissons un plan, on met au mur un peu, d'une part, toute l'histoire, c'est-à-dire que dans mon bureau et de celui de Jacques, vous avez un tableau synoptique de toute la Seconde Guerre mondiale, toutes les dates clés importantes, parce que là, il ne faut pas se planter. Ensuite, vous avez les personnages clés, et là, nous, on va plaquer notre imaginaire. Donc, on va rajouter des feuilles avec nos héros et avec les éléments d'intrigue sur chaque partie de ce plan. Et au final, vous allez avoir sur tout un mur du bureau, eh bien, le plan documenté de nos livres. Mais attention, c'est très souple. Je vais vous donner juste un exemple. On a découvert pendant nos recherches, alors qu'on avait quasiment bouclé le plan, que les communistes, eux aussi, sous Staline, avaient fait des recherches ésotériques. Et ça, c'était pas du tout, on le savait pas, c'était pas dans notre radar. Donc on a dû modifier en découvrant des choses absolument stupéfiantes. Alors Staline voyait des mages, des voyantes, mais qu'il y avait aussi des chefs de la GPU, qui était le service secret, l'ancêtre du KGB, qui faisaient des recherches paranormal, qui croyait l'existence de cités perdues, bref, l'équivalent de ce qu'on trouvait chez les nazis. Et ça, on est tombé des nues, si vous voulez. Donc, on a dû remodifier tout ce plan. Donc, c'est à la fois très cadré, mais avec beaucoup de souplesse.
Et ça donne la saga du Soleil Noir, et en l'occurrence, le nouveau tome, La Relique du Chaos, c'est chez Lattès. Merci beaucoup, Éric Giacometti et Jacques Ravenne.
Merci.
Merci.
Dans un instant, toujours des livres, nous allons écouter les premières pages et bien du Da Vinci Code, justement. On reste dans le thème. À tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, il est l'heure d'écouter un livre. Je l'ai dit tout à l'heure, Giacometti et Ravenne sont présentés comme les Dan Brown français. Dan Brown devenu célèbre en 2003 avec la publication du Da Vinci Code, l'histoire du professeur Robert Langdon, un spécialiste des symboles, pas tellement taillé pour l'aventure, mais qui va devoir s'y mettre. Une partie du livre se passe à Paris et commence avec l'assassinat de Jacques Saunière, un conservateur du musée du Louvre. Avant de mourir, il a eu le temps de marquer au sol quelques symboles étranges et c'est là qu'intervient Robert Langdon.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
L'albino s'inclina la tête, cligna d'un œil et mit en joue. Saunière leva les deux bras, comme pour se défendre.
« Attendez !»
articula-t-il lentement.
« Je vais vous donner les informations que vous attendez de moi. »
Reprenant son souffle, Saunière récita posément le mensonge qu'il s'était tant de fois répété à lui-même et qu'il avait espéré ne jamais avoir à prononcer. Lorsqu'il eut terminé, l'albinos grimaça un sourire suffisant.
« C'est exactement ce que m'ont dit les trois autres. »
Saunière eut un mouvement de recul.
« Les autres ?»«
Eux aussi, je les ai trouvés. Tous les trois. Ils m'ont dit la même chose. »
Comment a-t-il pu les identifier ?
Les fonctions du conservateur en chef au sein de la confrérie, comme celles des trois sénéchaux, étaient aussi confidentielles que l'antique secret qu'il devait protéger. Saunière dut se rendre à l'évidence. Ses trois frères avaient respecté la procédure et proféré le même mensonge avant de mourir. Son agresseur pointa de nouveau le pistolet vers lui.
« Après votre disparition, je serai le seul à connaître la vérité. »«
La vérité. » Le vieux conservateur comprit aussitôt toute l'horreur de la situation. « Si je meurs, la vérité sera à jamais perdue. » Dans un sursaut instinctif, il tenta de se mettre à l'abri. Il entendit partir le cou étouffé, et une douleur fulgurante lui transperça l'estomac. Il s'effondra à plat ventre, puis réussit à se redresser pour ne pas perdre de vue son assassin qui rectifia son angle de tir, visant la tête cette fois. Submergé par le regret et l'impuissance, le vieil homme ferma les yeux. Le clic de la détente résonna dans le chargeur vide. Saunière rouvrit les yeux. L'albinos jeta sur son arme un regard presque amusé. Il hésita à sortir un second chargeur, mais se ravisa, et avec un rictus méprisant dirigé vers la chemise ensanglantée de Saunière, il jeta « J'ai accompli mon travail. » Saunière baissa les yeux. Sur sa chemise de lin blanche, une petite auréole de sang entourait l'orifice laissé par la balle, juste au-dessous des côtes.
L'estomac. Oh, il a raté le cœur.
Saunière avait fait la guerre d'Algérie, et il savait que l'agonie consécutive à ce genre de blessure était atroce. Il lui restait environ un quart d'heure à vivre, avant que l'écoulement des sucs gastriques acides dans sa cavité abdominale ait terminé ses dégâts.
« La douleur est salutaire, monsieur !»
fit l'albinos en partant. Saunière resta seul, piégé derrière la grille qui ne pourrait pas s'ouvrir avant 20 minutes. Il serait mort avant. Mais la peur qui l'étreignait dépassait de beaucoup celle de mourir.
Le secret doit être transmis.
Il se releva péniblement, évoquant ses trois compagnons morts et les générations de ceux qui les avaient précédés, sacrifiés à la mission dont ils étaient investis. Une chaîne de connaissances ininterrompue. Et voilà qu'en dépit de toutes les précautions prises, de toutes les sauvegardes, voilà qu'il était le seul maillon survivant, l'ultime gardien du plus protégé des secrets.
Il faut trouver un moyen.
Il était coincé dans la grande galerie, et il n'y avait qu'une personne au monde pour reprendre le flambeau. Saunière contempla les célébrissimes portraits accrochés au mur qui semblaient lui sourire comme de vieux amis. Gémissant de douleur, le vieillard rassembla ses forces physiques et mentales. Il s'attaqua à sa dernière tâche, conscient qu'il lui faudrait mettre à profit chacune des secondes qui lui restaient à vivre.
Le Da Vinci Code, c'est à lire ou à entendre donc. Dans un instant, nous partons à la découverte de la bibliothèque de Frédéric Taddy. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, c'est le moment d'aller visiter une bibliothèque. Il vient de publier des entretiens avec Jacques Attali aux éditions de l'Observatoire. Le livre s'appelle « À tort ou à raison ». Il, c'est Frédéric Taddy. Je savais qu'il devait avoir de beaux romans chez lui. Eh bien, je ne me suis pas trompé. Bonjour Frédéric Taddy.
Bonjour Nicolas.
Bon, je suis un peu impressionné, un peu intimidé, parce que c'est quand même votre spécialité, les balades, les extérieurs comme ça, avec Julien et sa console portable.
Oui, on a le même magesson.
Ouais, on se retrouve, on est en famille. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé cette émission il y a 3 ans, les 5 premières versions, je faisais venir des gens pour me parler de leur bibliothèque. Et vous êtes le premier. Vous êtes venu, mais en studio, pour me dire ce qu'il y avait chez vous dans votre bibliothèque. Comme le concept a un peu changé, je voulais quand même venir voir par moi-même. Et je suis un peu étonné, parce que quand vous étiez venu, vous m'aviez dit que votre roman préféré au monde, c'était Le Comte de Monte Cristo. Et il n'est pas là.
Alors j'avais un peu exagéré, ce n'est pas mon roman préféré au monde, mais c'est un de mes romans préférés. Et il est dans la chambre de mon fils, au dernier étage.
En train de dormir.
Qui est en train de dormir, et c'est lui qui a tous les Monte Cristo. J'ai une édition... je ne sais pas qui doit dater des années 50, qui m'a été offert par un de mes meilleurs amis. Et j'ai tous les Dumas. Et je crois que le Comte de Monte Cristo, il doit être en 4 tomes ou 5 tomes, je ne sais plus exactement.
Ça dépend des éditions, mais tous les Dumas font une bibliothèque à part, parce qu'il y a moins 150.
Ah oui, je ne sais pas. Je crois que c'est assez complet. Je ne sais pas s'il y a tout, mais c'est assez complet et c'est lui qui l'a.
Je n'ai pas précisé qu'on est donc chez vous, dans une maison en banlieue parisienne. Et là, on est dans le salon. Et j'avais aussi un peu peur de ça.
Le salon d'été, exactement.
Ah, c'est le salon. Ah, il y a un autre salon, d'accord.
Il y a un autre salon.
Ça ressemble à quoi, un salon d'hiver ? C'est qu'il y a des radiateurs ou comment ça
Non, il y a une cheminée. Et dans le salon d'été, il y a le jardin.
J'avais aussi un tout petit peu peur de trouver beaucoup d'essais. Et moi, je n'y connais pas grand-chose. Et en fait, là, il y a deux murs assez grands, remplis de romans uniquement.
Oui, là, c'est que la littérature. Les essais sont à côté. Il y en a là, dans la pièce d'à côté. Et puis, il y en a un peu partout dans la maison. Mais là, c'est la vraie bibliothèque littérature, quoi.
Est-ce que vous faites une différence, et laquelle, entre un bon essai et un bon roman ?
Bah, je ne demande pas à un bon essai d'être très, très bien écrit. Un bon roman, je lui demande d'être très, très bien écrit. Un bon roman, c'est l'alliance d'un style et d'une vision du monde. L'essai, c'est seulement la vision du monde. Et encore, très spécialisé.
Vous lisez où, en fait ? Vous lisez ici, parce qu'il y a un petit jardin, terrasse, avec des baies vitrées.
Je lis avant de m'endormir. Alors, ça dépend si je lis pour travailler ou pour me distraire.
Ah oui.
Quand je lis pour travailler...
C'est au bistrot, ça, je sais.
Non, pas du tout. Non, c'est ici, c'est à cette table-là, blanche, où, là où il y a plein de livres et plein de bordel.
Vous ne travaillez jamais au bistrot ? Je vous ai vu 1000 fois au Café Mode, à l'époque de la rue François 1er.
Parce que j'étais en retard. Moi, je travaille toujours au dernier moment. Donc, parfois, il m'arrive effectivement de travailler au bistrot, surtout entre 2 émissions. Mais non, en général, aujourd'hui, je travaille ici à une table. Et quand vous travaillez, enfin plutôt quand vous lisez un livre pour une émission de radio, par exemple, vous annotez, enfin vous écrivez en même temps. Donc, moi, j'écris à la main. Donc, ce n'est pas du tout le même type de lecture. À une époque, pour le Social Club, sur Europe 1, quand il faisait 2 heures, je lisais 4 livres par jour. Mmh. Alors, quand il faisait beau, j'en lisais certains dans le jardin, d'ailleurs.
Attention, il a la cendre de votre cigarette. Ah, bah, raté. Elle est tombée par terre. Mais c'est vrai que je n'ai pas précisé non plus. On est dans une sorte d'îlot de résistance. On peut fumer à l'intérieur. On a l'impression d'être des délinquants.
Non, chez soi, on peut moi, pas faire oui. ce qu'on veut.
Une dernière chose sur cette bibliothèque de mon point de vue, on ne s'est pas encore avancé, on n'a pas zoomé, mais je vois qu'il y a certains livres, alors tous les livres sont très bien rangés sur la tranche, mais il y a certains livres qui sont de face. Ah, c'est rangé par ordre alphabétique.
Oui, c'est rangé par ordre alphabétique, ça va être de Raymond Abelio à Stefan Zweig. Et ceux qui sont sortis, c'est simplement parce que soit je m'en suis servi, soit je les ai rouverts et que je n'arrive pas à les rentrer.
je pensais que c'était une sélection du meilleur, parce qu'il y a quand même le docteur Jivago, il y a 30 ans et des poussières de Jay McInerney. Alors ça, tiens, c'est intéressant. Ah, vous l'avez piqué à la bibliothèque municipale de je ne dirais pas quelle ville.
Je l'ai racheté parce que je l'avais lu pour Actuel à l'époque. J'avais rencontré Jay McInerney d'ailleurs à New York. Et je l'ai racheté, comme j'ai racheté beaucoup de livres qui avaient disparu. À l'époque actuelle, quand je parlais d'un livre, on découpait la couverture pour pouvoir l'imprimer. Et donc, j'ai racheté les livres dont j'avais parlé dans Actuel, qui étaient pour moi des livres incontournables. Si vous voulez, ici, il y a les auteurs incontournables pour moi, ceux qui méritent, à mes yeux uniquement, de rester. Et c'est les livres dont je ne voudrais pas me séparer, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que je les relirai un jour. Ça ne veut pas dire non plus que je les ai tous lus. Il y a certains livres ici que je n'ai pas lus. Mais je me dis, un jour, je les lirai. Je ne peux pas ne pas lire ce livre.
Oui, vous êtes comme tous les grands lecteurs, vous n'avez pas de complexe à ne pas avoir lu un livre.
Non, enfin, je suis parfois, j'ai des complexes. Proust, par exemple, ils sont tous là.
Ils sont là, oui.
Mais je n'ai jamais réussi à les lire.
Ah bon ?
J'arrive pas à rentrer dans Proust, c'est un de mes complexes. Mais j'attends d'être en prison.
Parce que vous avez été
en prison, je lirai Proust.
Oui, mais ça, il faut commettre un crime pour partir en prison.
Ben, je me souviens que pendant mon service militaire, j'ai essayé partout, c'était dans l'armée de l'air, c'était très difficile d'aller en prison, j'ai essayé par tous les moyens, je ne suis jamais parvenu. Et il fallait au moins frapper un officier pour aller en prison.
Vous avez tenté ?
Non, justement, je ne suis pas allé jusque-là. Ils étaient assez sympathiques, en plus, je ne voyais pas l'intérêt. Et puis, ils m'auraient sans doute flanqué une raclée. Et dans la vraie vie, je ne sais pas, ça dépend des jours. Parfois, c'est plus facile.
Mais alors, je ne vais pas faire votre psychanalyse, mais c'est étonnant de dire ça, qu'il faudrait que vous soyez en prison parce que vous courez après le temps, vous avez besoin d'être isolé.
Une fois en prison, vous vous dites, moi, je suis pour... profiter des choses et pas les subir, que ce soit le confinement, la prison, c'est un peu la même chose. Donc j'essaye effectivement de rentabiliser le temps perdu. Pendant mon service militaire, j'ai lu de très bons livres. Par exemple, j'avais emporté que des livres qui allaient aiguiser, renforcer mon sentiment entre le désespoir, l'ennui, etc., etc. Et j'avais lu de très bons livres, Les Cadets de Von Salomon, par exemple. Vous voyez des livres qui vous mettaient dans l'ambiance, ou Mars de Fritz Zorn, qui racontait son cancer.
Je vous avais entendu dire un jour, il y a longtemps, que jusque vos 30 ans, vous aviez passé votre vie à flâner pour vous cultiver dans les musées, dans les livres.
Jusqu'à 29 ans et demi, très précisément.
Mais avec une conscience très aiguë de ce que vous faisiez, comme une formation personnelle.
Voilà, je ne savais pas où ça mènerait, mais voilà, ça m'a amené ici.
C'est pas mal. Juste pour revenir sur Jay McInerney, quand même, je suis content de le trouver là. Je me doutais bien que je le trouverais là. C'est 30 ans et des poussières.
Il y en a d'autres.
Et Jay McInerney, c'est Bright Light, Big City, c'est New York, c'est le copain de Bret Easton Ellis. C'est toute une génération des années 80-90. De grands romanciers, ça incarne quoi pour vous ?
Ben, je les ai tous connus déjà, Bret Easton Ellis. Je l'ai connu quand il est venu à Paris avec American Psycho. À l'époque, le livre était très très mal vu. Il avait été refusé par son éditeur américain, refusé par son éditeur français. Et celui qui avait pris la relève, Salvi, m'avait invité à dîner avec Bret Easton Ellis parce qu'en fait, il n'intéressait personne. Et à l'époque, j'étais Actuel. Et donc, j'ai servi de guide à Bret Easton Ellis à Paris pendant une semaine. Il y avait Donna Tartt aussi qui est arrivée. Je me suis retrouvé avec elle également. Voilà, je les ai tous un peu connus. Et Jay McInerney, moi, mon roman préféré de Jay McInerney, c'est Story of My Life. C'est un livre formidable où il se met à la place d'une fille de 16 ans. 30 ans et des poussières est très bon aussi. Après, ça a été moins bien.
Mais ça fait partie des livres qui vous ont fait réfléchir sur vous-même, fait changer éventuellement d'itinéraire.
Non, changer d'itinéraire, il ne faut pas exagérer, mais 30 ans et des poussières, évidemment, c'était ma génération.
Fait voir le monde autrement, je veux dire.
Toute la littérature vous fait voir le monde autrement. En tout cas, elle vous fait... Oui, c'est une... Les romans vous changent. En tout cas, moi, ils m'ont beaucoup changé, mais à 20 ans. À 30 ans, un peu moins.
Ouais.
À 20 ans, oui, beaucoup.
Et maintenant que vous avez à peu près 40 ans ?
Maintenant que j'ai plus. Non, maintenant, c'est fini, justement. Je lis moins de romans. Et j'y prends moins de plaisir aussi, parce que les romans, c'est formateur. Comme le cinéma, j'ai arrêté d'être cinéphile à 18 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser profondément à la littérature. Je lisais évidemment des romans avant, mais je me suis plongé dans la littérature parce que j'avais fait le tour du cinéma. À l'époque, Vous aviez vu 500 films, vous aviez vu l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Les films m'ont beaucoup changé quand j'avais entre 12 et 18 ans. En tout cas, ils m'ont servi de catalogue pour ce que la vie vous promettait d'une certaine manière. Et après, j'ai eu envie de vivre ce que j'avais vu au cinéma. Et la littérature a pris le relais. Alors, je ne sais pas si elle m'a changé, mais elle m'a formé, elle m'a aidé à grandir. Les romans, c'est l'expérience de gens plus géniaux que vous. Et quand un grand roman, c'est quelque chose qui est beau et qui est vrai 50 ans, 100 ans, 200 ans après avoir été écrit. Et c'est toujours aussi beau et toujours aussi vrai. Si vous lisez Dostoïevski, c'est toujours aussi beau et toujours aussi vrai. Voilà, c'est ça la littérature, c'est le grand art. Mais comme la peinture, il y a beaucoup de tableaux ici aussi parce que ça a été, après la littérature, je me suis plongé dans la peinture et je me suis mis à acheter des tableaux.
Mais alors, qu'est-ce qui vous reste ?
La musique aussi a beaucoup compté et aujourd'hui, peut-être que c'est ce qui m'occupe le plus.
Oui.
Ouais, j'écoute beaucoup plus de musique aujourd'hui que je n'en écoutais quand j'avais 16 ans, mais d'une manière différente. Et puis, c'est toujours pareil aussi, vous accumulez, je ne sais pas, il doit y avoir 3000 livres ici. Mmh. Je crois qu'il y a 3000 films en haut dans la DVD Tech et j'ai à peu près 3000 disques aussi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, on a des nouvelles de Nabokov. Les nouvelles, c'est quelque chose que vous aimez aussi, qui est un peu...
Alors, il y a pour moi des grands auteurs de nouvelles. Fitzgerald fait partie des grands auteurs de nouvelles. En France, il y a Marcel Aimé. Si vous regardez de l'autre côté, là-bas, il y a toutes les nouvelles de Marcel Aimé. C'est plus un genre anglo-saxon qu'un genre français, pour une raison simple, hein, c'est que les magazines, les journaux achetaient les nouvelles à prix d'or. Avec une nouvelle, vous vendiez une nouvelle à un grand magazine américain, vous pouviez vivre pendant un an. Fitzgerald s'en est beaucoup servi. Nabokov, c'est pas mal. Nabokov, c'est vrai, bon, c'est Lolita, hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui m'ont marqué autant.
Avant de nous évader avec Julien, je voudrais quand même parler, et ça va... On aura fait la boucle parce qu'on a commencé par Monte Cristo et je vois la tranche d'un livre que j'adore, c'est Papillon.
Ah oui, Papillon, grande émotion.
Pourquoi vous avez ce livre-là ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Papillon, tel que vous le voyez là, c'est-à-dire l'édition originale chez Robert Laffont, je revois encore mon père le lire à Osgore où nous passions nos vacances l'été où Papillon est devenu un best-seller. Il y a une très belle couverture. Et mon père avait une jambe dans le plâtre, il s'était cassé la jambe en jouant au tennis, et il lisait Papillon. Et moi, j'étais très, très petit. Hein. Je crois que c'est, dans mon souvenir, c'est le même été où l'homme a marché sur la Lune, vous voyez. Mais je peux me tromper. Et puis, quelques années plus tard, je me souviens, j'étais en quatrième, je l'ai lu en poche et je l'ai dévoré.
C'est donc l'histoire d'Henri Charrière qui a été condamné au bagne et qui s'est évadé et qui a raconté toute son histoire.
Oui, alors peut-être qu'en réalité, il ne s'est peut-être même pas évadé. Peut-être
oui.
Même que... On sait qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont dans ce livre qui sont arrivées à d'autres que lui. Mais le livre est tellement formidable. Et je suis allé au bagne, moi.
Ah oui ?
Oui, oui. J'ai même emmené mon fils.
Mais en visite ?
Bah oui, bien sûr. En visite. Je vous rappelle qu'il a été aboli après la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un livre qui m'a tellement marqué. Ensuite, j'ai lu La colonie pénitentiaire de Kafka. J'ai lu le livre, parce que vous avez plusieurs livres d'Albert Londres aussi dans cette bibliothèque.
Oui, mais alors attendez, parce qu'il ne faut pas passer trop vite là-dessus. Vous êtes allé à Cayenne exprès pour visiter le bagne ?
Non, je suis allé à Cayenne, je suis allé à Kourou, en réalité, pour assister au départ de la fusée Ariane. C'est pour ça que j'ai emmené mon fils, parce que je me suis dit, voir une fusée décoller, quand même, c'est le top. Et puis, une fois que j'étais là, je me suis dit, je ne peux pas ne pas aller au bagne.
Et qu'est-ce qui se passe là-bas ?
Alors déjà, ça a été racheté par la société qui fait la fusée Ariane, parce que la fusée Ariane passe juste au-dessus du bagne, et donc ils ont racheté tout ça. Et ça a été remis plus ou moins, parce qu'à une époque, c'était complètement dévasté par la nature. Ça avait été plus ou moins pillé, d'ailleurs, ce qui restait du bagne. Donc, quand nous y sommes allés, ça ressemblait de nouveau à ce que j'avais lu dans le roman d'Henri Charrière. Mais c'était très émouvant.
C'est intéressant parce qu'un homme très libre comme vous, j'ai l'impression, est assez fasciné par la prison. C'est justement pour ça ? Parce que c'est votre pire crainte ?
Non, ce n'est pas la pire. Non, non, il y a des trucs bien pires que la prison.
Ne plus être libre, ce n'est pas une crainte pour vous ?
Ah bah si, le confinement m'a passionné à cause de ça.
Ah oui.
Le confinement était une expérience extraordinaire. J'ai expérimenté à la fois la dictature, une dictature sanitaire, provisoire, mais une dictature quand même. vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous. Aucun dictateur n'avait réussi à faire un truc pareil. Et non seulement vous ne pouvez plus vous rassembler, mais vous êtes plus libre de vos déplacements, vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Alors, il se trouve que moi, je pouvais sortir de chez moi parce que je venais à Europe 1 faire mon émission, mais quand même, bon. Et puis, la pression, oui, d'être emprisonné. Mais alors, moi, je n'avais pas l'impression d'être emprisonné chez moi, j'avais l'impression d'être emprisonné dans mon pays parce que je ne pouvais pas prendre l'avion. Et moi, je suis un grand voyageur. Et même quand je ne voyage pas, l'idée qu'il y a des avions prêts à décoller que je peux prendre suffit à me sentir libre. Quand il n'y a plus d'avions qui décollent, et que même s'il décollait, vous n'étiez pas sûr que le pays dans lequel vous vouliez aller allait vous ouvrir les bras et pas vous mettre dans un centre de rétention. Ça, ça a été une épreuve pour moi.
Bon, ben nous, on va reprendre notre liberté. On s'en va. Ouvrez cette porte, Frédéric. Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
C'était un plaisir.
Merci beaucoup. Europe 1. Frédéric Taddeï, qui publie avec Jacques Attali « À tort ou à raison » aux éditions de l'Observatoire. Dans un instant, direction les librairies pour flâner un peu dans les rayons. À tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, c'est l'heure des libraires. Et en face de moi, dans le studio, j'ai Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure. Et c'est toujours très émouvant de voir un libraire en vrai après ce qu'on a vécu. Bonjour Christophe.
Bonjour Nicolas.
Et connectée, parce qu'un peu craintive encore, Anne-Sophie Rouvelou de la librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine. Ça va Anne-Sophie ?
Ça va très bien, merci.
Parfait, salut à tous les deux. Anne-Sophie, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous tendez aux clients en ce moment et vous leur dites, c'est ce livre qu'il faut acheter, pas un autre.
Ouais, un super roman qui s'appelle L'été des oranges amères de Claire Fuller. Je ne sais pas si tu connais l'auteur, Nicolas, mais déjà son précédent, Un mariage anglais, était excellent.
Et vous en aviez parlé d'ailleurs dans l'émission.
Tout à fait. Et c'était vraiment un bijou de suspense qui parlait de secrets, de gens, un petit peu comme celui dont je vais vous parler, son nouveau, qui est un petit peu différent, ceci dit. Lorsque le roman s'ouvre, celui-ci, on est avec une certaine Frances Jellicoe, qui est une femme âgée qui laisse remonter un peu ses souvenirs d'une manière brouillonne. Et il y a un moment précis qui ressort dans tous ses souvenirs. C'est un été qu'elle a passé avec une certaine Cara à Linton, qui va être le lieu de tous les souvenirs. Donc, nous, on va remonter le fil, on va comprendre que ça s'est passé en 1969, dans une sublime demeure au cœur de la campagne anglaise. Et notre héroïne, Frances, avait à l'époque 39 ans et elle avait été mandatée par un riche propriétaire américain pour faire une sorte d'expertise des lieux et voir un petit peu les objets de valeur, etc. Sauf qu'au cours de ce séjour, Frances, elle va faire la connaissance d'un couple qui squatte un peu sur place, qui est Peter et cette fameuse Cara, la fille de ses souvenirs. Sachant qu'ils sont un petit peu tous les deux étranges, la fille est un petit peu hystérique sur les bords, l'homme est très séduisant mais difficile à cerner, et tout ça, ça va créer une sorte de trio un peu explosif, un petit peu un triangle amoureux. Ils vont beaucoup faire la fête, ils vont s'amuser ensemble, mais les choses vont commencer à s'assombrir, à se compliquer beaucoup. C'est-à-dire qu'on va découvrir un petit peu au fil de l'ouvrage, parce que c'est encore un petit peu des révélations comme le précédent et c'est parfaitement maîtrisé, on va découvrir le passé très compliqué du couple, tout en se demandant toujours ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et on sent qu'un drame va venir. Ça devient vraiment de plus en plus sombre, on découvre des corbeaux morts, la vieille demeure qui était sublime comme ça au milieu de la campagne anglaise qui fait fantasmer tout le monde, ça devient une sorte de bâtisse en ruine, un lieu où tout le monde semble prêt à perdre la raison. Donc c'est un jeu de faux-semblants, c'est un récit autour de secrets, de trahisons, et c'est un petit peu ce que faisait déjà l'auteur, sauf que cette fois-ci, pour moi, c'est carrément à comparer à un roman gothique. Ça m'a fait penser à Daphné du Maurier.
D'accord.
Et à mais voilà, faut pas trop en dire non plus.
D'accord.
Ça m'a fait penser à Hitchcock aussi, mais là, je m'arrête parce que c'est pareil, je voudrais pas trop en dire, mais voilà, je vais le conseiller tout l'été, c'est sûr.
Et les oranges amères, on peut dire pourquoi ou faut pas?
Non, pareil, d'accord. Mieux progresser un petit peu à tâtons comme le font les personnages dans cette demeure, du coup.
On peut dire que c'est le titre quand même. L'été des oranges amères de Claire Fuller chez Stock.
Dans la super collection La Cosmopolite.
La Cosmopolite. Christophe, vous avez de bonnes adresses pour nous, des adresses littéraires, avec un superbe livre, un petit bijou.
Un livre formidable de Didier Blonde, donc, dont le titre est « Carnet d'adresses de quelques personnages fictifs de la littérature ». Alors Didier Blonde a 12 ans en lisant les aventures d'Arsène Lupin et précisément le bouchon de cristal, se rend compte qu'Arsène Lupin possède un entrepôt de marchandises volées au 95 rue Charles Lafitte à Neuilly. Il se trouve que le petit Didier Blonde habite dans la même rue et là c'est pour lui une révélation, un choc. Et depuis il n'a de cesse à chaque livre qu'il lit de noter les adresses des personnages. Ce qui nous donne un livre incroyable avec évidemment les personnages de ces écrivains fétiches. Hein. Donc il y a Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Flaubert, Modiano, Simenon, et on va suivre
Monte Cristo, les Mousquetaires.
Voilà, ils sont tous là et dans Paris évidemment parce que c'est son lieu de prédilection, c'est sa ville et il n'a de cesse de traquer les fantômes de la littérature à Paris. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas uniquement une liste de personnages et d'adresses, parce que il va en plus sur place vérifier, voir si l'adresse existe vraiment. Donc à chaque entrée, on a une petite histoire aussi, et c'est un bouquin passionnant. Il se compose de quatre parties. Il y a une sorte de prélude de 60 pages où Didier Blonde explique un petit peu sa relation avec la lecture, les personnages.
Comment ça donne de la réalité à la fiction aussi quand il y a ces adresses-là qu'on peut reconnaître?
Complètement, ouais. Et tout à coup, les repères entre la fiction et le réel sont totalement brouillés. Et voilà, on peut se balader dans Paris en s'imaginant pouvoir croiser Fantômas, D'Artagnan, le comte de Monte Cristo, donc Edmond Dantès qui n'habite pas rue Monte Cristo, parce que la rue Monte Cristo existe, mais lui, il habite 30 avenue des Champs-Élysées.
Il a plusieurs adresses. Oui.
Il a plusieurs
en
adresses, c'est vrai.
En fonction de ses identités.
Voilà.
Oui.
D'ailleurs,
c'est un travail gigantesque.
C'est un travail gigantesque et c'est vraiment passionnant à lire de bout en bout.
Carnet d'adresses donc, de Didier Blonde, c'est chez Gallimard. Et puis, L'été des oranges amères, ça c'est le conseil d'Anne-Sophie Rouvelou. De Claire Fuller, chez Stock Collection La Cosmopolite, et on retrouve ces deux livres à l'Infini Comédie chez Anne-Sophie à Bourg-la-Reine et à la 25e.
Je ne suis pas craintive
quand elle n'a pas peur. Et à la 25e heure à Paris chez Christophe Daniel. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci Nicolas.
Dans un instant, on rejoint ce grand enfant de Victor Dolan pour son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolan. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous présentez un roman intitulé « Un putois épatant » d'Adrien Poissier.
Oui, c'est l'histoire de Jonathan, un jeune putois qui a les ongles noirs, il a mauvaise haleine, le poil gras. Bref, un putois quoi. Ouais. Mais tout putois qu'il est, Jonathan a un don exceptionnel. C'est un fantastique nez, un esthète des odeurs, un artiste des effluves. Il travaille sans relâche pour créer le plus fin des parfums, sauf que personne veut de lui.
C'est-à-dire ?
Il veut absolument participer au concours international de parfumerie pour y présenter son tout dernier produit, l'Empestante. Mais chaque année, les organisateurs lui barrent la route. Léon vous lit justement un extrait sur ses refus à répétition.
Mais au concours, l'accueil fut une fois encore mitigé. Un putois pue et ne peut pas créer de parfum, un point c'est tout.
L'année suivante, les organisateurs avaient déplacé le lieu de l'événement dans le plus grand secret afin d'empêcher Jonathan d'y accéder. Celle d'après, c'est la date du concours qu'il modifiait délibérément à la dernière minute et le putois était arrivé trop tard. Une autre fois encore, ils avaient prétendu que le concours n'aurait pas lieu.
Mais Jonathan ne se décourage pas pour autant. Il décide de se déguiser en belette. Bah oui, car les belettes, c'est quand même tellement plus chouette. Pour pouvoir justement participer à ce concours.
Question rituelle, à partir de quel âge peut-on lire ce livre ?
Alors c'est ce qu'on appelle un premier roman, une soixantaine de pages. Il y a encore des illustrations. C'est un texte parfaitement adapté pour les enfants qui ont commencé à lire à partir du CP, donc 6 ans. Un texte amusant. L'auteur joue beaucoup sur le contraste forcément entre la mauvaise odeur du putois et le parfum qu'il veut créer. Un texte aussi sur l'inclusion, les différences. C'est un thème très récurrent dans la littérature jeunesse, mais jamais trop pesant dans ce roman. C'est fait avec beaucoup de subtilité et c'est très efficace. Vous pouvez d'ores et déjà vous attendre à quelques questions sur les différences une fois ce livre terminé.
Et on rappelle le titre, Un putois épatant, où je fais la liaison, peut-être Un putois épatant, d'Adrien Poissier. C'est aux éditions L'École des loisirs. Merci Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses, à Xavier Joly pour la programmation musicale, et puis évidemment Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. À la semaine prochaine pour d'autres livres.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.